Vous savez, nous vivons à une époque où l'on vous propose des formules rapides qui prétendent vous garantir le succès en très peu de temps dans divers domaines de la vie. Je cite juste à titre d'exemple, comment perdre du poids en très peu de temps. Ça, on voit beaucoup de choses dites là-dessus. Et je ne vais pas m'étaler, ce n'est pas le but, mais juste attirer votre attention aussi, comment devenir riche en 3 leçons. Je m'arrête là. Donc, notre monde, hélas, notre société, je dirais presque bouton, nous ont conditionnés, même pour ce qui concerne la maturité spirituelle. Et cela nous amène à conclure, pour certains chrétiens, qui sont tombés dans la tentation de penser aussi en termes instantanés pour la vie chrétienne, surtout la maturité chrétienne. Force est de constater que chacun d'entre nous a un passé différent, des expériences différentes, et qui vont certainement influencer les progrès vers la maturité dans la vie chrétienne. Je dirais une chose est sûre, c'est que quel que soit notre héritage spirituel, quels que soient nos échecs, la marche vers la maturité chrétienne ne se fait pas instantanément, mais prend du temps. Prend du temps et prend beaucoup de temps. Ce matin, on va se poser la question, comment reconnaît-on qu'une personne est spirituellement mûre? J'intitulerai un peu cela, ce message. Comment reconnaît-on qu'une personne est spirituellement mûre? Pour cela, ce sujet était déjà éclairé au moment, dans le monde du Nouveau Testament, tout au début. Et l'apôtre Paul nous donne 2 passages très clairs, et c'est ce que nous allons lire, à Timothée et à Tite, où il présente un puissant modèle pour tester le niveau de maturité d'un chrétien. Et ces passages se trouvent dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Et Tite 1, verset 5 à 9. Et je vous invite à le lire ensemble maintenant. Donc, je vous invite à lire ces passages. Comment reconnaît-on qu'une personne est spirituellement mûre? La réponse est dans ces 2 passages que je vous montre maintenant. Lisons-le. 1 Timothée 3, 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, on a vu ce que c'est la semaine dernière, en surveillant, si vous voulez, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. J'ai souligné les qualifications que l'apôtre Paul donne dans ce passage. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en flétant d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Continuons dans Tite, chapitre 1, versets 5 à 9. Maintenant, il s'adresse à Tite qui doit établir des anciens en Crète. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier. » Et je n'ai pas souligné tout ce que je viens de lire parce que c'est déjà mentionné dans 1 Timothée 3, n'est-ce pas? Mais je souligne la suite. « Ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant ou maître de soi, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. » Vous dites, mais là, ça c'est pour les anciens, pour les pasteurs, pour les surveillants, ça ne me concerne pas. Je voudrais ce matin, le but de ce message, c'est de vous montrer, si vous avez compté, il y a 20 qualifications soulignées là. Et ces 20 qualifications pour les anciens. Mais mon but ce matin, c'est de vous montrer que ces 20 qualifications ne sont pas seulement faites, elles sont là pour les anciens, mais pour tous les croyants, hommes, femmes. Et je dirais même les enfants. Et c'est ce que je cherche à faire, de vous le montrer. On va reprendre donc les 20 qualifications rapidement et de montrer qu'ils s'appliquent dans la vie aussi de ceux qui ne sont pas appelés à être anciens ou pasteurs, mais ça nous concerne tous. Commençons par le premier. Donc, irréprochable. Nous l'avons vu, c'est les qualifications de l'évêque, d'ancien. Ici, donc, à 1 Timothée 3:2. Et pour tous, donc c'est pour nous aussi, pour tout le monde, exemple tout simplement, en 1 Timothée 5:7. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Vous avez votre Bible? Regardez juste les versets juste à qui précèdent ce que je viens de lire là. Il parle de qui, l'apôtre Paul? Dans ce contexte, il parle, un long passage, il parle des veuves. Et le passage qui nous concerne ici, donc parle des femmes veuves. Donc, vous voyez très bien, ce n'est pas que pour les anciens, ici c'est pour les veuves, hein, afin qu'elles soient irréprochables. D'accord? Regardons Philippiens 2, 14 et 15. Philippiens chapitre 2, nos hommes prêchent un message continu là-dessus. Philippiens chapitre 2, les hommes doivent se souvenir qu'il y a les premières parties qui parlent de l'abaissement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a quitté le trône du ciel et venu en une descente vertigineuse jusqu'à mourir sous la croix infâme. Et c'est dans ce contexte que nous lisons « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables. » Une épître, c'est toujours adressée à des croyants. Et Paul s'adresse à des croyants. Que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu. Recommence encore, irréprochables et au milieu d'une génération perverse, corrompue, par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Aujourd'hui, mon objectif, tout simplement, c'est pas directement de prêcher sur chacune de mes qualifications, mais vous montrer que c'est pas fait comme pour les anciens aujourd'hui, mais c'est aussi fait pour tous les croyants. Donc vous êtes bien. Quelques passages, mais j'en ai encore d'autres, mais juste pour vous citer que ça concerne tous les croyants. Deuxième critère, mari d'une seule femme. Je vous invite à lire Romains 7, versets 1 et 2. Ignorez-vous, frères, vous, frères. Ça veut dire qu'ils sont dans la connaissance de ce fait que Dieu a donné dans sa parole ce qu'est le mariage entre un homme et une femme. Et ici, il va insister sur le fait de l'indissolubilité du mariage. Mari d'une seule femme. Donc il dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Juste, pourquoi ce passage? Il faut toujours regarder un passage dans son contexte. Quelqu'un disait, vous prêchez sur un passage hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Donc ici, quel est le contexte? Paul vient de répondre à une question qui est posée en Romains 6, verset 15. Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Et donc pour faire ça, le développement qui suit maintenant, c'est que Paul là va donner les arguments pour répondre à cette question. Pécherions-nous alors parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Il va avoir recours à l'exemple des maîtres esclaves. pour montrer combien le croyant doit se livrer à Dieu. Et ici, dans le passage qui nous concerne maintenant, il va se servir d'un autre exemple, hein, non plus du maître-esclave, mais de le mari et de la femme, pour montrer que par son union avec Christ, hein, le chrétien a une nouvelle relation avec la loi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce que nous lisons ici, lorsqu'un homme et une femme se marient, ils sont unis pour la vie. Et ça, ce n'est pas que pour les croyants. C'est pour tout le monde, hein, parce que le mariage a été créé par Dieu. Et ce passage nous enseigne que les époux, tant qu'ils sont vivants, sont sous l'autorité de la loi régissant le mariage. Si le mari meurt, la femme n'est plus l'épouse. Ça veut dire que la mort a brisé le lien du mariage et a libéré la femme. Qu'est-ce que Paul tire comme application ici? Il tire qu'en application, nous avons été soustraits au pouvoir de la loi comme la femme vis-à-vis de son mari décédé. Il n'a plus aucun pouvoir sur nous. Mais j'insiste sur ce passage tout simplement, un des passages qui souligne très bien l'importance du mariage mari hein, d'une seule femme. C'est la mort qui nous sépare, comme on dit. Hein, et c'est l'enseignement que Paul nous donne ici. Regardons maintenant sobre, 1 Timothée 3, 2, et à ce sujet, on va regarder 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. Quel est le contexte? Le contexte, c'est que Pierre vient de rappeler à ses lecteurs la grandeur de leur salut qui était un don de Dieu. Grandeur de ce salut. Il est émerveillé de ce salut. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va relancer son dada. Son dada à l'apôtre Pierre, c'est de dire « Je vous appelle à mener une vie de sainteté. » D'accord? Et pour cela, il va commencer à leur dire « Affermissez vos pensées. » C'est le verset 13. « A. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. » Pour mener une vie de sainteté, il dit « Puis, il doit faire preuve d'autodiscipline. Soyez sobre. » C'est l'autodiscipline, maître de soi. Ça, c'est l'idée ici. Et donc, vous voyez très bien, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à ses auditeurs, ça veut dire les chrétiens. Donc, vous voyez, le sobre ici n'est pas fait que pour les anciens, ça s'adresse aussi pour tous les chrétiens. Tite 2, 2. Ici, dit que les veillards doivent être sobres. Il s'adresse à des veillards. C'est un peu galvaudé le terme pour aujourd'hui, mais c'est un peu ici. Donc vous voyez, ce n'est pas que pour les anciens. Sobres aussi doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Passons maintenant à modérer. Modérer, nous connaissons le chapitre 5 de Galates, ça parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas pour quelques initiés ou quelques super spirituels. Ça doit caractériser tous les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et ici, parmi le fruit de l'esprit, il y a la tempérance, c'est modéré. D'accord. Donc ça s'adresse à tous les croyants. 2 Pierre 1, 6. Ici, dans 2 Pierre 1, 6, rappelez-vous, ce passage montre ce que c'est un chrétien. Et le chrétien n'a pas que son billet dans la poche. Je suis sauvé, j'ai le billet dans la poche, je vis comme je veux, on verra après quand le ciel. Et non, et non, et non, erreur monumentale, dit Pierre. Non. Et là, il ajoute des vertus dans lesquelles le chrétien doit vivre au quotidien le salut merveilleux que Dieu lui a donné. Il est comme un partenaire, lisez cet épître, le début, comme un partenaire, hein, où vivre l'évangile au quotidien. Et en ce moment, il dit, à la science ou la connaissance, la tempérance, hein, il faut rajouter bout à bout. Maintenant, à la connaissance, on va mettre la tempérance, c'est le maître, modération, c'est maître de soi. Maître de soi, c'est le grec, un mot qui est très fort. Hein. C'est-à-dire maître de ses désirs, maître de ses pulsions, maître de toutes ces choses. Hein, et à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Et ça s'adresse à qui? Eh bien, vous lisez l'Épître, ça s'adresse à tous les croyants aussi. vous voyez, réglé dans sa conduite. Ici, Romains 12, verset 3. Là aussi, quel est le contexte de Romains chapitre 12? L'apôtre Paul, là, en réponse à ce que Dieu a fait pour nous, à cause de ses compassions, exhorte les croyants à offrir leur corps à Dieu, offrir leur intelligence à Dieu, leur volonté à Dieu. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit aussi que dans leur relation entre chrétiens, doit-elle être comme ça parce qu'il faut membre du corps de Christ. Lisez-le. Et c'est ça ce que nous lisons. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, comment on doit être dans nos relations avec nos frères et sœurs, n'avoir pas lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments, ça c'est le mot qui est utilisé ici en grec, hein, modeste, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Donc, réglé dans sa conduite, dans nos rapports les uns avec les autres, revêtu du même trait de caractère. Hospitalier. Hospitalier, ici c'est très clair, Romains chapitre 12, encore dans le même passage que nous venons de voir, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Vous voyez, exercer l'hospitalité s'adresse encore à des croyants ici. Hébreux 13:2, n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc vous voyez que tout cela concerne les croyants. Propre à l'enseignement, 1 Timothée 3:2, pour l'ancien et pour tous les croyants, 2 Timothée 2:2, est-ce que tu as entendu de moi? En présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça, c'est le relais, la transmission. La foi chrétienne, la foi dans le sens biblique, peut avoir le sens de placer sa confiance dans l'objet de notre foi qui est Jésus-Christ. Mais la foi chrétienne peut signifier aussi la contenu de ce qui est cru. Et c'est ça ce qui est à transmettre. C'est pour ça dans nos messages, on enseigne. Hein, on transmet ce que les apôtres nous ont donné. Et donc, ici, c'est pas que pour les anciens, pour des hommes fidèles. Des hommes déjà croyants, mais des hommes qui sont fidèles dans l'Écriture, hein, dans la bonne doctrine du Saint-Écriture. Et donc, on passe le relais, les hommes aussi passent à d'autres. Regardez Jacques chapitre 3, verset 1 maintenant. Là, dans l'épître de Jacques, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup là-bas, dans cette église, c'était très charnel cette église. Et là, tout le monde veut devenir des enseignants de la Bible. Et Jacques dit, attention. Il amène à quelque chose qu'ils n'y ont pas pensé. Ils pensaient que enseigner la Bible, c'est trop facile, ça. Non. Il est en train de dire, mes frères, vous voyez bien, il s'adresse à un frère. C'est pas que pour les anciens. Mes frères, hein, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est une grande responsabilité d'enseigner, prêcher. Et c'est une grande responsabilité parce que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Jacques dit même que nous serons jugés plus sévèrement, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je tremble. Chaque fois que je suis devant vous, je n'ai pas dit n'importe quoi. Je tremble parce que Dieu me demandera de compte sur ce que j'enseigne, ce que je prêche. Chacun d'entre nous qui ont cette tâche. Pas à donner au vin. Ici, dans Éphésiens 5, 18, ici, l'apôtre Paul fait une comparaison, une allusion entre quelqu'un qui est ivre pour tirer une application de ce que devrait être un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. Vous regardez quelqu'un qui est ivre. Qu'est-ce qui le contrôle? C'est l'alcool qui le contrôle. Et quelqu'un qui est ivre est contrôlé par l'alcool qu'il a bu. Et là, il fait une allusion. Eh bien alors, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Et hop! Ne vous n'usurez pas de vin, soit au contraire rempli de l'Esprit. Vous voyez? Et ça s'adresse aussi à des chrétiens. Donc, quelqu'un de rempli de l'Esprit, tout simplement quelqu'un qui est au contrôle de sa vie sur le Saint-Esprit. Une image. Votre vie, c'est un volant de voiture. Qui est au volant de votre voiture, votre vie aujourd'hui? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le Seigneur? S'il est au contrôle de votre vie, vous le laissez conduire votre vie, ça c'est traduction de quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu. Un autre exemple, il a encore dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au excès de vin. J'étais choqué un peu. J'imaginais à l'époque les femmes de ce certain âge, peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses à faire. Hein, il est dit même que c'est incroyable, hein, quand on lit les Épîtres, c'est la véracité de la Bible, il dit les choses vraies. Il y a des femmes qui font des commérages de maison en maison, etc. Il dit non, vous ne devrez pas être comme ça. Et ça, c'est un choc ici, ni à donner aux excès de vin. Ils s'adressent à des femmes âgées, pas que les anciens. Et c'est exactement, c'est le même mot qu'ici, en grec. Donc vous voyez, ce n'est pas que pour les anciens, c'est pour tout le monde. Hein. Non violent. Hein. Le contraire, là, si vous voulez, donc ici, de la violence, c'est la douceur. Et donc, et là, la Bible en parle beaucoup. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Que votre douceur, il s'adresse pas à une élite spirituelle, il s'adresse à des croyants comme vous et moi. Votre douceur. Ici, il s'adresse aussi, la même chose, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes peut-être à l'école avec des profs très exigeants. Vous êtes au travail avec des patrons très exigeants. Très durs même. Mais qu'est-ce qu'elle nous est demandé? Être soumis à vos maîtres, même s'ils sont d'un caractère difficile. Et le mot ici, c'est exactement le contraire de ce qui est demandé ici. Et ça doit caractériser notre vie de tous les jours. Dieu a placé ces hommes, ces personnes dans notre chemin pour apprendre, pour nous aider à prendre la douceur. Pas régler le compte par soi-même, mais laisser entre les mains de Dieu qu'il juge les choses justement. C'est comme ça le Seigneur. C'est magnifique. Et c'est formation d'un caractère. Les jeunes, c'est à la fac, à l'école, au travail. Vous avez des amis, des profs, je ne sais quoi, d'un caractère difficile. Ne pensez pas à régler le compte par vous-même et dites, oh merci Seigneur, tu as placé cette personne parce que tu veux que j'apprenne la douceur. Tu veux que j'apprenne à l'aimer tel qu'il est. Et pour un chef hiérarchique, de me soumettre à lui, non pas à cause de son caractère violent, mais se soumettre à lui parce qu'il est chef. C'est pas facile, hein? Mais c'est ce que la Bible nous entraîne à faire. Indulgent. Hein, c'est le même mot. J'étais surpris, mais la traduction parfois nous piège. Mais c'est exactement, c'est le même mot ce que nous venons de voir. C'est pour ça que j'ai mis les mêmes versets là. D'accord. Pacifique. Hein, ici, donc, il parle. Hein, Dieu ici, dans Tite 3.2, Dieu nous a rachetés et fait de nous un peuple qui lui appartienne. Et en tant que peuple de Dieu, on doit refléter le caractère de notre patron qui est Dieu. Et voilà, il donne une liste. Et ici, de ne me dire personne, d'être pacifique, exactement ce qu'on demande aux anciens. Pacifique, un homme de paix, une femme de paix. Romains 12, 18, s'il est possible, en tant que cela dépend de vous, il s'adresse à chaque chrétien dans cette église, soyez en paix avec tous les hommes. Waouh, quel programme! Soyez en paix, être pacifique avec tous les hommes. C'est pas facile, mais Dieu nous le demande. Désintéressé, Hébreux 13, 5. Ici, le contexte, c'est l'amour de l'argent. Et en contraste, l'auteur des épîtres aux Hébreux donne un encouragement à ce que les chrétiens fassent confiance en Dieu, même sur ce domaine matériel. Et c'est pour ça qu'il donne cette promesse que nous avons dans l'Ancien Testament aussi. Hein. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. En fin de compte, l'argent n'est pas mauvais en soi, mais c'est notre cœur vis-à-vis de l'argent qu'il faut contrôler. On ne vit pas pour l'argent, mais l'argent c'est un moyen pour vivre, en quelque sorte. Et ici, il touche ce domaine-là, de ne pas tomber dans le travers, l'amour de l'argent. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez, le secret du contentement. La publicité, on vous incite, bombarde tous les jours à ce que vous n'êtes pas bien. Il vous manque quelque chose. Et le chrétien doit apprendre à se contenter de ce qu'il a. Waouh! Ça s'appelle nager à contre-courant, n'est-ce pas? Vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous le croyez-vous? Quand il n'y a plus qu'un euro dans le compte? Croyez-vous? Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je crois. Je l'ai vu dans ma vie. Et Dieu ne laisse rien ses enfants mendier. Il y a un passage comme ça dans l'Ancien Testament. Dieu veille. Je me rappelle toujours les Israélites pendant les pèlerinages dans les déserts. Même leur vêtement, un seul vêtement ne s'est jamais déchiré. Même les chaussures, les sandales ne sont jamais usées. Pendant ces pèlerinages dans un désert chaud, difficile. C'est une image que Dieu veille sur nous aujourd'hui aussi. 1 Timothée encore 6, 10, hein, rappelle ça encore. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, hein, quelques-uns dans les églises où s'adresse, donc ici Paul, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Attention, l'amour de l'argent. Ça ne s'adresse pas seulement aux pauvres, mais aussi aux riches. Hein. C'est un danger, ça menace même la foi chrétienne. Vous voyez? Faisons attention. Dirigez bien sa propre maison. Ici, à 1 Timothée 5, 14, je veux donc que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants et qu'elles dirigent leur maison. On parle des jeunes femmes, des jeunes mamans. Ici. Et le mot diriger, c'est exactement ici. Ici, c'est les anciens qui doivent diriger l'église. Et ici, on lit dans 1 Timothée 5, 14, hein, aussi les jeunes femmes se marient, qu'elles aient des droits, qu'elles dirigent leur maison. Quelle responsabilité, les mamans. Hein. Vous qui créez le bonheur, hein, et le bien-être dans la maison, quelle responsabilité, mais quel privilège vous avez. Moi, ma femme, c'est pas pour lui dire, elle est là. Elle était 2 semaines pas à la maison, je peux vous dire. Hein, quand on était que les garçons, mon fils et moi, kebab. Pas de cuisine. Mais quand elle est revenue, sa présence émane quelque chose. Et tous les maris voient ça. Émane quelque chose. Et la maison a une vie, quelque chose qui vit et qui donne la joie, le bonheur. Et quelle responsabilité. Dieu vous a doté de cette faculté et cette capacité. Prenez soin de vos maisons. Tite 3:8. Ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Pratiquer, vous voyez la traduction encore dans nos langues françaises? Non, c'est le même verbe que diriger en grec. Hein? Et ici, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Vous voyez? Combien de veuillons-nous que nous ne soyons pas des passifs, dans l'oisiveté, mais il veut que nous pratiquions des bonnes œuvres. Il suffit de lire le passage pour voir de quoi il s'agit. Ayons des enfants soumis et honnêtes. Ça s'adresse aux anciens, mais aussi ici, ça s'adresse aux parents. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Les enfants, je m'adresse à vous. Vous ne pouvez pas prétendre dire « j'aime Dieu » si vous désobéissez à vos parents. Dit plusieurs fois que l'obéissance à Dieu passe par l'obéissance à vos parents. Ça, c'est le principe d'inclusion, c'est le principe du gouvernement, hein, dans le royaume de Dieu. Et donc, faites attention. si vous désobéissez à vos parents, vous êtes en train de désobéir à Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu cherche pour vous, et ce n'est pas pour votre bonheur. Donc, attention à ça. Et c'est le même mot ici, hein, qu'on a ici. Serviteur, pas que les enfants, serviteur. Hein. À l'époque, dans l'église, il y a beaucoup d'esclaves qui se sont convertis. Et il s'adresse à ses serviteurs qui ont toujours des maîtres, hein, selon la chair, dans la vie quotidienne, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. On fait tout pour le Seigneur. J'aime le Seigneur, je veux obéir au Seigneur, ça passe par mon obéissance à mon maître. Je suis un enfant, j'aime Dieu, comment le montrer? J'obéis à mes parents, ça passe par mon obéissance à mes parents. Voyez? Pas un nouveau converti. Pourquoi? Parce qu'un nouveau converti, tout simplement, il y a le piège de l'orgueil. Et ici, dans le passage à 1 Timothée 3, il ne parle pas de manque d'expérience, mais d'un risque spirituel qui est l'orgueil. Hein? Et l'orgueil, hein, qui guette tous les hommes, spécialement ici chez les faux docteurs, à 1 Timothée 6, 4, peut trouver là un terrain particulièrement favorable pour l'ennemi de le faire chuter. Combien je tremble, j'ai dit à ma femme, chaque fois que je suis devant, que tienne le Seigneur, qu'il n'y a pas des pensées d'orgueil, qu'il n'y a pas quelque chose comme ça. Parce que combien on peut chuter si facilement. On a besoin de prière, on a besoin de l'humilité, on a besoin du Seigneur dans cette tâche. Et combien les hommes sont vulnérables à ce point-là. Et ici, il parle donc du contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Et il s'adresse à toute l'Église. Ne faites rien pour esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Waouh! Regardez au-dessus de vous autres. Pareil, Pierre, 1 Pierre 5,5, vous qui êtes jeunes, ça s'adresse aux jeunes, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Donc ça, c'est adressé à tous les croyants, hommes et femmes. Dans nos rapports mutuels, nous revêtir d'humilité. J'aime beaucoup cette métaphore de se revêtir. Quand nous sommes devenus chrétiens, nous nous sommes dévêtus de l'ancien vêtement, c'est notre vie passée. Et en ce moment-là, nous sommes revêtus de la nouvelle habit parce que nous sommes une nouvelle créature, un nouvel homme. Et cette métaphore dans cette métaphore de vêtements, il y a l'humilité. L'humilité. Un bon témoignage envers ceux du dehors. Et au milieu des païens, une bonne conduite. Quand on parle des païens ici, le païen dans la Bible, ça peut avoir le sens de non-juif, mais ça peut avoir le sens de incroyant ou non-croyant. Il faut bien retenir ça. Non-juif ou non-croyant. Ici, surtout, je pense à l'idée ici aux non-croyants. Hein. Ayez au milieu des non-croyants une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos beaux œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il y a des moments, peut-être, vous parlez de l'évangile à d'autres personnes, des collègues. Il y a un moment, vous dites, j'ai assez dit, il n'y a plus rien à faire. Mais votre conduite, ils observent. Et nous avons une responsabilité d'avoir une bonne conduite là où même on nous cherche des ennuis. C'est pas facile, hein? On vous marche dessus, hein? Hein? Mais exactement, c'est le bon témoignage que nous devions rendre. 1 Pierre 3,13, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. C'est toujours à des chrétiens persécutés au temps de Néron, où Pierre adresse ses exhortations d'avoir une vie de sainteté. Et donc ici, que cela se manifeste par votre bonne conduite. Magnifique. Amis des gens de bien. Ça, je n'ai pas trouvé. Par contre, ce qui est intéressant, j'ai vu le contraire dans 2 Timothée 3,3. On peut être un ennemi des gens de bien. Et j'espère que ce n'est pas votre cas. On devrait chercher sur nos alliés, être avec ceux qui partagent la même foi, la même confiance en Dieu, la même amour pour Dieu, la même zèle pour Dieu. Voyez, chercher les gens de bien et être amis de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est très simple. Si vous passez toute votre vie avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui va vous influencer d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Mais quand vous êtes dans la compagnie des enfants de Dieu, il va vous influencer aussi à vous tirer, à aller vers l'avant. Avec eux. Et donc, cherchons à être amis des gens de bien. Juste, ici, pareil, ce trait de caractère est appliqué au maître, accordé à vos serviteurs ce qui est juste. C'est des maîtres qui avaient des esclaves, ils sont devenus chrétiens maintenant, et Paul leur demande accorder à vos serviteurs ce qui est juste. C'est le même mot. Au reste, frères et aux frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Ça, c'est une panoplie de 9 choses qui doit être l'objet de nos pensées et parmi ces vertus, tout ce qui est juste. Est-ce que vous marchez ce qui est selon la norme de Dieu en matière de travail, en matière de votre vie de couple, en matière de vie sociale? Est-ce que vous cherchez toujours à être juste? Marchez ce qui est droit, ce qui est correct. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Saint, saint, ici 1 Pierre 1, 16, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Toujours dans cet rappel-là, à mener une vie de sainteté, donc ici, il s'adresse aussi aux croyants. Vous serez saint car je suis saint. Ça, j'aime beaucoup parce que ça, c'est comme nous, tel fils, comme tel père, ou tel père, tel fils, n'est-ce pas? Exactement, notre Père Céleste est saint. Et nous devons lui ressembler saint, mis à part. 1 Thessaloniciens 4, 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Oui, ici, dans le contexte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, il parle de la débauche, de la fornication, toutes les formes de relations sexuelles qu'il touche là, il s'adresse aux croyants que vous sachez posséder, maîtriser vos pulsions, vos corps dans la sainteté et non pas dans ces vices dans lesquels certains y étaient avant. Vous voyez, la sainteté vis-à-vis de à quoi livrons-nous notre corps. Tempérant. Titre 3.3, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Il s'adresse encore aux croyants. Colossiens 3.16, attachés à la vraie parole. Oui, rappelons-nous de ce que Paul a dit en Colossiens 3.16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Oui, un chrétien ne peut pas prétendre à être chrétien et aimant Dieu s'il n'aime pas sa parole. Combien de temps vous passez dans la semaine pour lire la parole de Dieu? Sur une échelle de 0 à 10, combien de temps vous passez pour lire la parole de Dieu, pour prier, prendre du temps avec Dieu avant de commencer votre journée? Vous ne pouvez pas prétendre cela si la parole de Dieu ne prend pas racine, n'élise pas domicile en vous. Demeurez, ça veut dire qu'il élise domicile, il habite chez vous. Il ne passe pas de temps en temps quelques minutes. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu si je n'aime pas sa parole, si je ne prends jamais le temps de lire sa parole. Vous voyez, attacher la vraie parole de Dieu, c'est très important. La raison ici, vous pouvez regarder dans le passage, dans le titre, c'est tout simplement pour enseigner la saine doctrine, la doctrine salubre, hygiénique, qui apporte du bien spirituellement. Et non pas comme les faux docteurs qui enseignent des fausses doctrines malsaines, qui ne donnent pas une bonne santé spirituelle. Et nous avons besoin d'être attachés à la vraie parole pour enseigner la sainte doctrine, mais aussi pour refuter les doctrines malsaines. Ça, c'est la raison pourquoi on doit être attaché à la vraie parole. Hop. Voilà les 20 critères. Voyez, les 20 qualifications. La question qui se pose maintenant, là, vous voyez, la parole de Dieu me convainc. C'est vrai, maintenant j'y pensais que c'est que pour ceux qui aspirent à être évêques, c'était pour ceux qui veulent être des anciens. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est claire. Je ne fais que vous montrer l'évidence que ça concerne à tout chrétien, que ce soit au début de sa vie chrétienne, quelques années après la foi en Christ, ça nous concerne tous. Qu'est-ce qu'on peut tirer? Vous savez que dans cette liste, il n'y a aucune référence au don spirituel. Avez-vous remarqué? Paul n'a pas dit de chercher des hommes ayant le don d'enseigner. n'est-ce pas? Et sur ces 20 qualifications, 19 se réfèrent à la réputation de l'homme. Est-ce que vous avez remarqué, les 19 sur 20 critères parlent de moralité, parlent de bonnes mœurs, parlent des habitudes, parlent du caractère, ainsi que la maturité spirituelle des anciens, qui doivent nous caractériser aussi. Et l'autre qualité se réfère, le 20e, à sa capacité de bien diriger sa propre maison. Question tout simplement pour terminer, pourquoi ces 20 qualifications avec des exigences si élevées, la bonne élevée est trop haute? Pourquoi? Beaucoup de choses on peut dire, mais une chose que je voudrais dire, parce que Dieu veut que la vie de ses frères, anciens pasteurs, ait un exemple à imiter pour tous les croyants qui sont dans le même bateau. On doit vivre de telle manière. Et je dirais que c'est la norme pour les anciens, les pasteurs, qui œuvrent en permanence dans l'église locale, mais aussi c'est la norme pour tous les chrétiens, sans exception, comme nous venons d'en parler. N'est-ce pas? Je dirais, ce sont les marques ou caractéristiques bibliques de la maturité chrétienne. Hein? Nous venons de poser la question dans le message, comment reconnaître quelqu'un qui est mûr spirituellement? Et bien voilà. Voilà. Cette liste est là pour aider chaque croyant à refléter les traits de caractère de Christ dans sa vie, parce que nous sommes destinés à ressembler à Christ. J'aimerais m'adresser à vous, les parents. Par votre vie, par votre exemple, est-ce que vos enfants puissent dire « Je veux vivre pour le Seigneur » en voyant mes parents vivre comment ils vivent pour le Seigneur? Est-ce que votre vie avec le Seigneur donne envie à vos enfants de suivre sur le même chemin? Ou est-ce que vos enfants peuvent dire, mais si c'est ça, un chrétien, une vie chrétienne, je n'en veux pas. Nous sommes responsables. Et ces listes doivent nous inciter à réfléchir sérieusement. Quel héritage je laisse à mes enfants? Est-ce que ma vie reflète vraiment les traits de caractère de Christ? Ce à quoi Dieu m'appelle. Donc ça c'est important, hein, les parents. Je dirais, ces 20 qualifications sont là aussi pour nous convaincre de nos insuffisances. Qui ici lève les doigts à dire, je suis parfait là? Levez les doigts. Qui? C'est bien que nous sommes honnêtes et à dire, non, je suis loin. Et moi je peux vous dire, je suis très loin. Si vous connaissez mes luttes chaque jour, combien dans la journée, Seigneur, délivre-moi, demain, je te demande pardon, regarde encore ce que j'ai fait, je viens de prier là, je tombe à nouveau. Ça, c'est la lutte pour mener une vie, pour être mûr dans le Seigneur. Donc, ces listes, la barre est tellement élevée pour que nous puissions reconnaître notre insuffisance et notre manque de force, notre faiblesse, que nous avons besoin de crier à Dieu pour nous donner de l'aide, pour vivre de telle manière, parce que c'est ce qu'il veut pour nous. Mais aussi pour que nous prenions conscience de nombreux changements nécessaires dans notre propre vie. Êtes-vous partant aujourd'hui avec ces 20 choses? Ah, ici, maîtrise de soi. Oh, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Je veux travailler ça. Ça va me prendre combien? Pas comme les prêches-boutons. Mais peut-être ça me prendra des années et des années. Mais je veux, Seigneur. Je veux ça pour ma vie. Et pour d'autres, tellement l'amour de l'argent. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Délivre-moi de cette mentalité. Que je puisse chercher les choses invisibles, vivre pour le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à travailler, n'est-ce pas? Et c'est ce que je demande pour que nous prenions conscience de nombreux changements nécessaires dans notre propre vie. Et aussi de nous reconnaître que nous avons besoin de Dieu pour les vivre. Je puis tout par celui qui me fortifie.